Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, on a conduit deux véhicules cette semaine qui se ressemblent énormément parce qu'ils viennent tous les deux du Japon. Et là, ça arrête les points communs.
Oui, effectivement. Donc, de mon côté, je me suis déplacé dans la région de Muskoka la semaine dernière en Ontario pour conduire la toute nouvelle et complètement redessinée Subaru Outback.
Nouveau phare, nouvelle calandre, un eyesight qui fonctionne un peu mieux et ça s'arrête là.
Les phares anti-brouillard aussi. On les a redessinés.
Ah.
Et franchement, la liste de nouveautés s'arrête là. C'est vraiment un très, très, très petit facelift là, de mi-génération. C'est très timide comme évolution. On ajoute une version Onyx qui a un moteur atmosphérique, parce qu'on sait qu'il y a deux moteurs, et essentiellement, on a des jantes gris foncé, l'habillage de fenestration qui est tout noir. Bref, on élimine le chrome. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Ben, franchement, je suis pas un adepte.
Tout le monde l'a fait, alors
oui,
pourquoi
tout le monde
pas
le fait.
Subaru, là,
on l'avait fait avec la Scent, on avait une version équivalente avec le Crosstrek. Bref, voilà. Et sinon, ben, c'est la même formule qu'on adore. Le moteur 2.5, ça continue de toujours être un peu juste, même si on comprend que pour une très grande majorité de la clientèle, c'est amplement suffisant.
Est-ce qu'on s'est prononcé là-dessus? Parce que cette mécanique-là, ça commence sérieusement à être limite. Et malheureusement, c'est une mécanique qui commence à aussi mal paraître au chapitre de la consommation d'essence.
Je veux dire, ben oui et non.
Ça fait 10-12 ans qu'on a exactement la même chose et on n'évolue pas. Là.
Mais c'est assez efficace. Ça consomme 8 litres au 100, 9 litres au 100 en étirant. Pour un véhicule de ce format-là, pour moi, c'est tout à fait acceptable.
Ça pourrait faire mieux, là.
Ça pourrait faire mieux. On pourrait ajouter l'hybride, mais on ne commente évidemment rien de ce côté-là. Puis on sait qu'à l'échelle planétaire, ben Subaru est un tout petit constructeur. Donc, les ressources financières pour développer des technologies, ben malheureusement, on doit se fier à Toyota qui...
Bon, on aime mieux garder ça, c'est ça. On aime mieux garder ça que de transformer une Outback en Camry, là.
Oui. Ça, on veut absolument pas ça. Alors, voilà, le temps file. Antoine, de ton côté, tu as conduit la Nissan Z 2023. Ouais. Une voiture qui était très attendue, là.
Bon, écoute, d'abord, coup de cœur esthétique, voiture magnifique sous tous les angles, plus de l'arrière que de l'avant. Je suis pas un fan de cette grosse ouverture au niveau de la calandre qu'on a fait.
Qui rappelle le modèle de première génération,
bon,
là.
Quand même, mais je trouve qu'il y a des traits de design qui sont plus jolis que d'autres, mais au final, c'est une voiture magnifique. Mécaniquement, c'est une mécanique que j'adore. 400 chevaux, V6 3 litres, biturbo, emprunté à la Q50S Red Sport. J'aimais cette mécanique-là chez Infiniti. Je l'aime encore plus dans la Z, où on a une voiture plus légère et à boîte manuelle.
Voilà, c'est quand même une caractéristique fort intéressante.
Voilà.
Là.
On peut l'obtenir en automatique, mais évidemment que pour une voiture de ce genre-là, tu préfères la manuelle.
À quel point c'est, et là, excuse-moi l'expression, tape-cul comme voiture?
Moins qu'avant.
OK.
Moins qu'avant. C'est un peu mieux insonorisé. Je te dirai jamais que c'est une voiture confortable. Là. C'est certainement pas ça. Mais j'ai l'impression qu'on aurait travaillé les suspensions pour justement en faire une voiture un peu plus conviviale. Et ça, je l'ai senti aussi sur piste. Parce que j'ai pu faire du circuit avec la voiture. Et ma constatation, c'est que cette voiture-là ne m'a pas parlé autant que ce à quoi je m'attendais. Tu vois, j'ai pu conduire également une Subaru BRZ,
oui,
qui, elle, m'a parlé énormément. Faire corps avec une petite voiture sport comme ça, ça arrive pas...
C'est plus petit, une BRZ.
C'est plus petit,
léger,
c'est moins puissant,
oui,
mais la voiture, elle te parle. Tu fais corps avec la voiture. Alors que la Z...
Est-ce que tu lui parles, toi aussi?
Non, je ne lui parle pas. D'accord. Mais Z, j'ai trouvé que c'est... j'ai trouvé que c'était plus difficile de la saisir, si tu me permets l'expression. Même si je me suis amusé à la faire déraper, à la faire glisser, parce que c'est une petite voiture de drift assez intéressante. Puis il y a 400 chevaux, là. Alors, il y a moyen d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est une très, très belle mécanique. La boîte manuelle, ça va bien. Le problème pour moi, c'est qu'il y a deux versions. Il y a 12 000 $ entre les deux versions. Et tu veux pas avoir le modèle de base parce que tous les éléments de performance manquent.
Alors, donc, au final, c'est un véhicule qui coûte pas mal plus cher qu'auparavant.
60-61 000 $ c'est ce que ça coûte une Z manuelle performance. Et les gens sont outrés de la facture parce que On se souvient que Nissan avait proposé une Z à 30 000 $ en 2016.
C'était un coup d'éclat d'un modèle qui était en fin de génération. Mais puis quelle on avait aucun erreur. Équipement.
Là. Quelle erreur. On vendait une Z au prix d'une Civic SI, au prix d'une GTI.
On se dévaluait soi-même.
Scraper l'image d'une marque là, puis d'un modèle, ça, c'était la bonne façon de le faire.
Je veux revenir avec toi sur un point, parce que lorsque tu avais vu pour la première fois le véhicule à Toronto, en même temps que l'Aria, un autre qui se fait attendre d'ailleurs, et tu m'avais dit avoir été franchement déçu par la planche de bord qui était entièrement numérique. Est-ce que tu t'es raccommodé avec le véhicule ou au contraire?
L'habitacle, il y a deux problèmes pour moi dans l'habitacle. Les sièges sont épouvantables. Ce sont les mêmes que dans l'ancienne Z. Ils sont beaucoup trop étroits. Et il faut que tu sois en bas de 150 livres pour y trouver ton compte. Parce que autrement, ce sont des sièges qui sont trop étroits, c'est inconfortable, c'est le point à corriger dans la Z. Autre chose, c'est qu'il y a plusieurs éléments dans l'habitacle qui proviennent de l'ancien modèle. Et l'ancien modèle, il y avait 12 ans,
donc,
13 ans.
Donc, c'est un nouveau modèle, mais qui
c'est un nouveau modèle, comme le Frontier est un nouveau modèle. Tu sais, on a récupéré beaucoup de trucs dans la boîte à outils de l'ancienne génération, et ça, je trouve ça un peu dommage. Puis la planche de bord entièrement numérique... Bon, moi, tu sais comment j'aime ça, des cadrans analogiques, surtout dans une voiture sportive. On n'a plus ça. C'est un cadran numérique, mais c'est une instrumentation numérique, mais c'est la même que dans un Rogue et dans un Pathfinder.
Donc, on ne vend pas beaucoup de rêves, là.
Tu sais, oui, il y a une fonction où tu peux aller chercher un autre affichage où là, on va t'écrire Z dans la planche de bord, mais ça fait assez dur. Et je me permets de te dire ceci. En jouant avec les paramètres de la planche de bord, j'ai découvert qu'il y avait une savoureuse mauvaise traduction parce que tu peux changer l'affichage. Oui. Et pour changer l'affichage, tu passes à travers les menus et en anglais, ça dit « Change meter view ». Alors qu'en français, c'est « Change vue de maître ».
D'apostrophe M-E, accent grave T-R-E.
Une traduction savoureuse. Oui. Comme quoi, chez Nissan, on n'a peut-être pas toutes fait les choses correctement.
Le service de la traduction n'était pas présent cette journée-là.
C'est une sportive intéressante. Oui. Très agréable sur les routes. Moi, j'ai pris des routes sinueuses d'arrière-pays dans les Hautes-Laurentides pour aller m'amuser. Et à ce moment-là, c'est très intéressant. J'ai rien à dire. Les sièges, je ne les aime pas. J'aime pas l'instrumentation, mais la mécanique est géniale. Le look est génial. Tu sens que la voiture est solide. Et encore une fois, ça va être une sportive facile à conserver longtemps parce que ce sont des voitures qui ne coûtent pas trop cher à entretenir. C'est sur un circuit que ça m'a déçu un peu. Je m'attendais à un meilleur niveau de performance que ça. Puis quant au prix, pour terminer, les gens sont outrés par rapport à la facture parce qu'on avait une Z à 30 000 $ il y a 5, 6, 7 ans, mais ce n'est pas la même voiture. Et je veux juste rappeler aux gens qu'en 1996, au moment où on a abandonné la Nissan 300ZX, quelle était l'échelle de prix pour une 300ZX à cette époque-là?
La même qu'en ce moment.
45 000 à 59 000.
Ouais.
Alors, une Nissan 300ZX Turbo, en 96, coûtait 59 000 $. Aujourd'hui, une Z Turbo de 400 chevaux coûte le même prix. Alors,
Elle n'est pas si chère que ça, finalement.
OK, la Z était très chère en 1996, mais disons que la vérité se situe quelque part entre les deux.